Voilà, traditionnellement, nous avons maintenant un moment de prédication, d'annonce de la parole de Dieu, mais c'est aussi une petite instruction, un rappel du baptême, du sens du baptême. Et il se trouve que nous avons commencé une série dans l'évangile de Marc, et donc je vais relire certains versets qu'on a déjà lus et commenter d'une autre façon. Simplement, une courte lecture en Marc, Évangile de Marc, chapitre 1, versets 4 à 5. D'autres lectures seront faites au cours de la méditation. Jean-Baptiste parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Que le Seigneur éclaire pour nous sa sainte parole et l'applique à nos cœurs par son Esprit Saint. Amen. Donc trois personnes se font baptiser et il est bon de réfléchir à la signification de ce qu'ils font, de ce geste. Et le baptême donc exprime d'abord un besoin de pardon et de purification. Le baptême symbole est un symbole d'une purification. Ça parle, je crois que ça va parler tout à l'heure encore. Le baptême est un bain. On est plongé dans l'eau, vraiment plongé, totalement. Et le rite du baptême fait penser donc à un nettoyage, à un grand nettoyage, un nettoyage complet. C'est un rite adapté pour représenter la purification des péchés. Dieu a prévu ce rite pour qu'il nous parle, qu'il continue à parler dans tous les temps et dans toutes les générations, mais aussi dans tous les peuples, dans toutes les cultures. Le bain reste cette profonde signification d'un nettoyage, d'une purification. Alors c'est le premier trait qui saute aux yeux dans le Nouveau Testament. Le baptême de Jean-Baptiste était présenté comme un baptême de repentance en vue du pardon des péchés. Dieu seul peut pardonner les péchés. Mais regardez la démarche de ces gens qui s'attroupent sur les rives du Jourdain au temps de Jean-Baptiste. Il y en a de deux sortes. Il y a les observateurs critiques qui regardent de loin, les gens religieux qui pensent qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ils sont justes à leurs propres yeux. Et puis il y a tout un peuple qui vient confesser ses péchés dans l'humilité. Parce qu'il fallait beaucoup d'humilité, il fallait abandonner son orgueil pour accepter d'être plongé dans l'eau. C'était un rite qui était réservé jusqu'à là aux païens qui devenaient juifs. Là, c'était des juifs qui acceptaient de laisser leur orgueil, leur façon de voir, pour suivre le plan de Dieu. Et Jean-Baptiste les a appelés à changer de vie, à se préparer à la venue du Messie qui était là tout proche. Ils savent que dans leur vie, des choses doivent changer. Ils savent qu'ils ne sont pas prêts pour le royaume de Dieu. Alors ils disent au monde et à Dieu leur repentance et leur foi. Et donc le baptême est le signe extérieur de leur repentance et de leur foi intérieure. Le baptême symbolise pour eux un nouveau départ dans la propreté. Alors il y a donc bien une association entre le baptême et le thème de la purification. Alors, dans la mentalité moderne d'aujourd'hui, le péché, ça ne veut rien dire. Le péché n'est qu'un acte qui se perd dans le passé. Et vous pouvez éprouver de la culpabilité pour le péché. Et si le sentiment de culpabilité est trop lourd, eh bien vous allez chez le psy, qui est censé vous en débarrasser. Dans la pensée biblique, c'est tout autre. C'est tout différent. Le péché n'est pas qu'un acte qui appartient au passé une fois qu'on l'a commis. Non. Il reste quelque chose du péché, comme une trace profonde, une trace indélébile. Et il n'y a rien qui peut l'enlever. Et le temps n'arrange rien, contrairement à ce que dit la sagesse populaire. Et donc, une des images utilisées pour en parler est celle de la souillure. Si j'accomplis un travail salissant, eh bien, une fois le travail terminé, j'ai de la saleté sur mes mains partout. Il me faut un bon bain pour me décrasser. Et c'est pareil d'une certaine façon pour le péché. Lorsque j'ai commis une faute, il en résulte une souillure plus profonde que je ne crois, une souillure que je porte et dont j'ai besoin d'être purifié. Et cette purification, c'est le pardon des péchés. Et voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus-Christ est mort pour effacer la souillure de ceux qui ont foi en lui. Personne ne peut l'effacer. Lui peut l'effacer. Et par conséquent, si je mets ma foi en Jésus, mort pour moi, sa mort efface ma souillure. Je suis purifié de cette souillure que je portais par suite de ma faute. Donc c'est cette purification que représente le baptême. De même que l'on prend un bain pour se débarrasser de la crasse, de la saleté, la mort du Christ nous purifie de cette souillure que nous portons à cause des péchés, de nos péchés. Et donc se faire baptiser, c'est se reconnaître coupable, c'est reconnaître qu'on a désobéi à Dieu, qu'on l'a offensé, qu'on a besoin de pardon, de purification. Et on peut noter à ce propos qu'il est bien dit que les gens venaient, au verset 5 de Marc 1, les gens venaient en confessant leurs péchés. C'était ça qui était important. Ils se reconnaissaient coupables, souillés. Le baptême n'est pas pour les gens parfaits ou pour les super-héros, les super-chrétiens. Il est pour des pécheurs repentants. Il est pour des gens indignes. Et se faire baptiser, c'est signifier que l'on veut recevoir le pardon de Dieu. Alors, il faut éviter un malentendu, bien sûr. Le fait de se faire baptiser ne garantit pas le pardon de Dieu. Il faut qu'il y ait derrière une démarche, on l'a déjà dit, de repentance, de foi personnelle. Et tous les textes qui mentionnent le baptême mentionnent aussi quelque chose à côté. La repentance, la foi, la conversion, le changement. Et dans l'évangile de Marc, tout à la fin de l'évangile, au chapitre 16, verset 16, il est dit « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Donc le baptême, c'est dire aussi « Je crois. Je crois que Jésus est mort pour moi afin que je reçoive ce pardon que j'ai. » Et donc c'est une façon de dire « J'ai mis ma confiance en Dieu et en l'œuvre du Christ pour mon salut. Je veux changer pour vivre d'une manière qui désormais plaise à Dieu dans tous les domaines de ma vie sans restriction. Celui qui m'a sauvé, je veux qu'il soit le Seigneur de ma vie. » Donc le baptême exprime cela. Et si ça ne correspond pas à une réalité, si je n'ai pas la foi véritable, si je ne m'engage pas à changer sincèrement pour vivre pour Dieu, alors le baptême, c'est un coup dans l'eau, c'est le cas de le dire. Ça ne sert à rien, c'est pas valide. Donc, pour résumer déjà, le baptême représente la purification des péchés, le pardon que l'on reçoit lorsque l'on place sa confiance en Dieu et que l'on se repent personnellement de ses fautes. Alors, le baptême aussi est un besoin de transformation intérieure. Le baptême symbolise un autre type de purification. Non seulement nous avons besoin du pardon, autant que de pain quotidien, mais nous avons aussi besoin d'être transformés intérieurement. La Bible dit « Nous sommes corrompus par le mal ». Le mal est parfois comparé à une maladie de l'être. Le mal atteint notre être au plus profond. Ce n'est pas l'extérieur de nous, c'est l'être plus profond qui est atteint par le mal. Nous avons donc besoin d'une purification intérieure du péché. Et nous avons besoin d'une purification de la corruption qui s'attache à notre être. Un grand mal, il faut un remède aussi grand. Et donc cette transformation, nous ne pouvons pas l'accomplir nous-mêmes, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et donc si nous sommes chrétiens, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes passés par la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, le bain de la nouvelle naissance de l'apôtre Paul. Et se faire baptiser, c'est déclarer que mon être est corrompu. J'ai eu besoin d'être purifié intérieurement, transformé par le Saint-Esprit. J'ai demandé à Dieu de m'accorder son esprit, je l'ai reçu par la foi, il a transformé. Il a commencé à transformer ma vie. Et je veux laisser l'Esprit Saint diriger tous les aspects de ma vie et être le Seigneur partout. Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui se tourne vers lui dans la repentance et la foi. Le baptême, c'est l'expression visible de cette transformation intérieure. Alors, le baptême est aussi fait pour les disciples. Alors, on aime citer hein, Matthieu 28, 19, c'est tout à la fin de l'évangile de Matthieu. Allez, parmi toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples et baptisez ces disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, a dit Jésus. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ainsi que se termine l'évangile de Matthieu, hein, un peu comme l'évangile de Marc, avec un petit peu plus long. Donc, ces textes suggèrent que se faisaient baptiser ceux qui étaient devenus disciples de Jésus. Il fallait être disciple et ensuite on était baptisé. Et ça ressort bien de l'ordre laissé par Jésus. Il s'agit de baptiser des gens qui ont commencé à être disciples de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui se met au pied d'un enseignant pour recevoir son enseignement. Et quelqu'un qui imite un forgeron, par exemple, pour devenir forgeron. Donc, c'est recevoir un enseignement et imiter un comportement. C'est ça, être disciple de Jésus. Donc, c'est recevoir son enseignement et accomplir ce qu'il demande, commencer donc ensuite à vivre selon son enseignement et selon l'exemple que Jésus nous a laissé. Et donc, le baptême chrétien est l'expression de l'adhésion à Jésus-Christ comme à un maître, le signe qu'on veut devenir disciple de Jésus et donc qu'on veut s'attacher à son enseignement, à sa parole et s'efforcer de vivre selon sa volonté et selon son enseignement. C'est qu'un commencement, le baptême. Mais c'est un engagement à se nourrir ensuite, tout au long de sa vie, de la parole du Christ. « Si vous m'aimez, vous garderez ma parole, vous garderez mes commandements », a dit Jésus. Donc, on peut ajouter aussi que le baptême est un engagement envers Dieu. L'apôtre Pierre représente le baptême, je ne vais pas le lire pour abréger un peu, en 1 Pierre chapitre 3 verset 21, il parle du baptême comme l'engagement d'une bonne conscience. Alors ce qui peut vouloir dire un engagement sincère, le baptême est un engagement sincère, réfléchi. Le baptême c'est un engagement personnel à suivre Jésus pour devenir un de ses disciples. Pour prendre un exemple plus parlant, c'est un peu comme lors d'un mariage. Et on a fait le rapport avec le mariage, hein, dans un des témoignages. Dans un mariage, le maire demande, monsieur le maire dit, consentez-vous à prendre pour époux un tel, une telle, hein, et à prendre pour épouse un tel. Et il en résulte en principe un oui franc et joyeux, un oui consenti, joyeux, décidé, délibéré, massif. Et donc le baptême, c'est un peu du même genre. Le baptême est l'expression d'un engagement que je prends. Et nos amis vont dire oui, d'une certaine façon, tout à l'heure, à haute voix, pour qu'on l'entende, pour que ça soit public. Le baptême est l'expression d'un engagement que je prends, que je vais ensuite m'efforcer de tenir. Et le baptême, donc, me lie. J'ai fait une promesse publique, c'est important. Le baptême symbolise cet engagement, comme l'anneau du mariage. Ceux qui sont mariés ont un anneau. Moi, j'en ai deux, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Et on a un anneau. Et l'anneau veut dire quelque chose. Ça symbolise l'engagement du mariage, pour que nous, on ne l'oublie pas, partout où on va. Et l'anneau que l'on porte veut dire quelque chose de profond. Je suis lié à une personne. Ça veut dire que je ne peux pas m'engager dans une relation de ce genre avec d'autres personnes. Et cet anneau m'aide à tenir l'engagement et met une sorte de barrière entre moi et les autres sur ce sujet, concernant ce sujet. Donc, et le baptême, ça agit un peu de la même façon. Comme l'anneau du mariage, c'est une sorte de sceau que l'on porte et on peut dire « j'ai été baptisé ». Par le baptême, j'ai exprimé mon engagement à vivre pour Dieu selon sa volonté. Et donc, abandonner la course ensuite, c'est manquer à sa parole. Et par le baptême, j'exprime un engagement que je dois ensuite tenir. C'est quelque chose de très fort. Et le fait de l'avoir fait publiquement, d'en garder le souvenir comme un sceau, eh bien, m'aide Et puis, le baptême est le signe que nous nous lions à Jésus. Jésus n'est pas seulement un enseignant, hein, quelqu'un qu'il faut imiter, c'est un sauveur. Et le Nouveau Testament exprime cela en parlant d'union avec Jésus et en disant que le chrétien est en Christ, uni à Christ. Il existe entre le Christ et le croyant un lien qui fait de lui notre représentant. Non seulement on est réconcilié avec Dieu, mais on est uni à Dieu, en communion avec Dieu. Et Jésus est notre représentant, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait des choses en notre lieu et place. Ce que le Christ a fait en notre lieu et place, c'est de mourir pour payer nos fautes. Sur la croix, il est mort comme notre représentant. De sorte que c'est comme si nous étions morts nous-mêmes. Nous étions condamnés à mort par nos fautes, mais nous sommes morts par personne interposée. Nous sommes morts à la personne de notre représentant. Et donc, nous n'avons plus à mourir pour nos fautes. Nous sommes délivrés de la condamnation. C'est pourquoi Paul écrit « Il n'y a plus de condamnation », et ça a été lu tout à l'heure, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Romains 8, 1. Nous sommes morts à notre ancienne vie pour vivre désormais une vie qui plaise à Dieu. Et donc c'est par la foi que nous sommes entrés dans l'union à Christ et que nous venons au bénéfice de son œuvre. Et donc cette foi, dans le Nouveau Testament, elle s'exprime par une confession de foi. Et chaque baptême est accompagné d'une confession de cette foi personnelle. On ne se contentait pas de recevoir le baptême dans le Nouveau Testament, mais on manifestait en même temps sa foi. Et on voit ça à plusieurs reprises dans le livre des Actes. Et Jésus lui-même a dit en Matthieu 10, « Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. » Et le baptême est cette première confession publique. À vos risques et périls de Jésus-Christ devant les hommes. Elle sera accompagnée d'autres confessions. Mais nous avons cette promesse. Dieu le Seigneur confesse votre nom devant son Père. Une bénédiction renouvelée, un affermissement renouvelé vous est promis. Alors je termine en posant une question. Si le baptême ne sauve pas, si ce n'est qu'un signe de choses intérieures, est-ce qu'on ne peut pas se passer du symbole? Si on a l'intérieur, pourquoi on pourrait se passer de l'extérieur? À quoi sert-il? A-t-on encore besoin aujourd'hui de le pratiquer si on vit ce qu'il symbolise? Ah, c'est une question redoutable. Alors tout d'abord, le Seigneur a ordonné de le pratiquer. C'est clair, net, précis. Ne serait-ce que pour ça, il faut le faire. La conversion est un engagement dans une vie d'obéissance à Dieu. Le baptême est alors la première occasion de manifester cette obéissance. Que dirait-on de quelqu'un si « Oh Seigneur, je veux donner ma vie, je veux aller jusqu'au bout du monde pour évangéliser, mais je ne veux pas me faire baptiser, j'ai trop honte. » Non, le Seigneur nous demande de faire ce petit acte, un petit peu humiliant, c'est vrai. C'est la première chose qu'il nous demande, mais c'est facile de se faire plonger dans l'eau, il n'y a rien de plus facile. Il nous demande de commencer par un petit acte d'obéissance qui sera suivi par d'autres plus importants. Et la foi, donc on voit aussi que la foi est quelque chose d'intérieur, dont le lieu est le cœur, tandis que le baptême est un acte qui engage mon corps. Et on a besoin d'unir tout notre être. Le baptême est ainsi, et dans la grande sagesse de Dieu, Dieu a voulu que le baptême soit un geste qui permette l'implication du corps dans la démarche initiale de la conversion. Je n'ai pas qu'une âme. Ce n'est pas mon âme qui est sauvée seulement. Ce n'est pas seulement mon âme qui relie à Dieu. Toute ma vie appartient à Dieu. Et mon corps aussi. Il y a des gens qui disent, oh, mon âme, Dieu s'en occupe, mon corps, j'en fais ce que je veux. Ça, c'est une hérésie qui existe depuis les premiers temps du christianisme. C'est une hérésie profonde. Nous sommes sauvés corps et âme, pour appartenir corps et âme. Et c'est corps et âme qui seront plongés dans l'eau, et pas seulement l'âme, j'y veillerai. Donc c'est un acte concret d'obéissance et de foi qui engage tout mon être et mon action. Dieu l'a voulu ainsi dans sa grande sagesse. Et le baptême aussi aide à mûrir la décision. Je crois que c'est très important, ça. Comme le mariage aide à mûrir l'engagement d'un homme et d'une femme. Le baptême aide à mûrir l'engagement. Il fournit une occasion concrète de faire le point. Ce qui est une bonne chose. Il permet de savoir où l'on en est. Le baptême permet de ne pas rester dans le flou, dans la zone floue. mais il m'amène à prendre une décision. J'ai décidé. Exprimer publiquement l'engagement pris dans son cœur devant Dieu a un effet positif sur celui qui se fait baptiser. Ça solidifie l'engagement. Et le baptême, donc, ne va pas changer quelque chose, quelque part, mais il va solidifier votre engagement. Le fait de l'avoir pris publiquement, si vous sortez de la zone du flou pour rentrer dans une prise de position publique pour Dieu, ça solidifie l'engagement. Et la conversion peut être un événement flou. Il y a des gens qui savent à quelle heure ils sont convertis et où. C'est mon cas. Mais on ne peut pas toujours faire ça. On ne peut pas toujours se situer dans le temps. Par contre, le baptême est un événement qui a lieu à un moment précis de notre histoire et auquel on peut se raccrocher. Regardant en arrière, je peux dire « tel jour, je me suis fait baptiser ». Pour vous, ce sera le 15 septembre de l'année de grâce 2019. Vous pourriez dire, j'ai manifesté par là un engagement envers Dieu. Maintenant, je dois tenir cet engagement et m'efforcer de vivre en conséquence, d'en vivre les implications. Et c'est exactement ce que Paul dit aux chrétiens de Rome. Je peux aussi regarder en arrière à mon baptême pour être encouragé. Romains 6. Ce jour-là, j'ai signalé ma foi. Je l'ai exprimé dans le baptême. On a prié pour moi, pour le renouvellement de l'Esprit Saint. Alors le baptême associe encore, et je termine, ça associe la communauté chrétienne à la démarche du nouveau croyant. Le baptême renvoie à la dimension communautaire de la vie chrétienne. Dans la Bible, la foi se vit en communauté, se vit avec d'autres. La foi ne se vit pas seulement de manière individuelle, la foi fait de moi le membre d'une communauté, d'un corps. Et parce qu'il se pratique dans le cadre de l'Église, et pas d'un groupuscule, le baptême me rappelle que j'appartiens à l'Église, que j'ai besoin d'elle et que mes frères et sœurs ont besoin de moi. Et plus précisément, la conversion fait de moi un membre de la communauté des chrétiens. Mais je ne peux pas entrer tout seul dans mon coin. Je ne peux pas entrer tout seul dans mon coin, dans cette communauté. Il faut que la communauté sache que je fais désormais partie d'elle. C'est normal. Et il faut que cette communauté puisse me connaître comme l'un de ses membres et m'accueillir en son sein. Et donc le baptême est prévu par Jésus pour ça. Le baptême est le signe de tout cela. Le baptême marque l'entrée dans l'Église. C'est l'acte concret, tangible, par lequel j'entre dans la communauté et par lequel la communauté m'accueille en son sein, c'est ce qu'on fera tout à l'heure. Donc Dieu est sage, il a institué le baptême, et il savait que ça serait bénéfique pour moi, pour nous, et que ça serait aussi un moyen d'exprimer ma foi à tous ceux qui n'ont pas encore cette foi. Et donc nous vous en supplions, au nom du Christ, je reprends, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà le message que nous adressons à tous, et que le Seigneur nous bénisse chacun selon ses besoins. Amen.